Bonjour et bienvenue, 15h TU, 17h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
En ce 1er mai, le monde du travail manifeste un peu partout sur la planète. En France, pas d'unité syndicale. Les organisations défilent en ordre dispersé, notamment pour défendre l'emploi, alors que le chômage progresse en France. La CGT annonce plus de 250 000 manifestants. L'Ukraine et les États-Unis concluent un accord en marge des tentatives diplomatiques pour ramener la paix. Un accord économique sur l'exploitation des ressources naturelles comme les minerais et les hydrocarbures. Pour les Américains, c'est une contrepartie de l'aide accordée depuis le début du conflit avec la Russie, à suivre dans un instant. En Syrie, plus de 70 morts dans les dernières violences à caractère religieux. La France appelle les différents acteurs, dont Israël, à y mettre fin. Israël, de son côté, demande à la communauté internationale de protéger les Druzes en Syrie. Ukrainiens et Américains se sont donc mis d'accord sur un vaste partenariat économique comprenant des investissements communs dans le développement et la reconstruction du pays agressé par la Russie. Le futur fonds d'investissement donnera aux sociétés américaines l'accès aux ressources naturelles que recèle le sous-sol ukrainien, minerais, pétrole, gaz. Cet accord purement économique intervient parallèlement aux tentatives de la diplomatie pour trouver une issue politique au conflit. Du point de vue de Washington, c'est une contrepartie que devait l'Ukraine. En 3 ans de guerre, les États-Unis lui ont accordé des dizaines de milliards de dollars d'aide. Aux yeux du secrétaire américain au Trésor, cet accord montre l'engagement des États-Unis pour obtenir une paix durable. On écoute Scott Bessent.
L'accord conclu aujourd'hui indique clairement aux dirigeants russes que l'administration Trump s'engage à long terme en faveur d'un processus de paix centré sur une Ukraine libre, souveraine et prospère. Il est temps que cette guerre cruelle et insensée prenne fin. Les massacres doivent cesser et les États-Unis comme le gouvernement ukrainien sont impatients de rendre rapidement opérationnel ce partenariat économique historique pour les peuples ukrainiens et américains.
Le secrétaire américain au Trésor, l'équivalent du ministre des Finances, c'est lui qui a signé l'accord avec la vice-première ministre ukrainienne qui avait fait le déplacement à Washington. Toujours le risque d'escalade entre l'Inde et le Pakistan, malgré les appels à la retenue lancés entre autres par les États-Unis. Pour le moment, ce ne sont que des escarmouches. Les armées des deux pays ont de nouveau échangé des tirs ce matin en Cachemire, région sous tension depuis l'attaque meurtrière du 22 avril, imputée par l'Inde au Pakistan. Côté pakistanais, les autorités du Cachemire ont décidé de fermer par précaution les écoles coraniques, renvoyant des milliers d'enfants chez eux, signe de l'inquiétude qui grandit dans la région. Sonia Ghazali.
Jamal vit avec sa famille à Muzaffarabad, à une quarantaine de kilomètres de la ligne de contrôle où les échanges de tirs retentissent quotidiennement depuis quelques jours.
Cette situation n'est pas nouvelle, mais elle a un impact sur notre vie et sur celle des gens qui vivent le long de la ligne de contrôle. Si ça devient trop dangereux, les gens devront partir. Leurs enfants ne peuvent déjà plus aller à l'école. Les gens ne peuvent pas sortir, ils ont des abris anti-bombes.
À Rawalakot, à 27 km de la ligne de contrôle, Nisar Shah, militant cachemiri des droits de l'homme, est très inquiet. Il craint que les tensions ne dégénèrent en conflit ouvert.
Nous ne pouvons pas nous permettre cette guerre. Nos familles vivent près de la ligne de contrôle. Nous craignons donc qu'un certain nombre de personnes ne soient obligées d'émigrer de cette région. Ils seront directement touchés par les tirs indiens et de l'autre côté, ils seront touchés par les tirs pakistanais. C'est une situation terrible.
The other side, the people will affect from Pakistani firing. It's a very terrible situation.
Les forces de sécurité ont été renforcées le long de la ligne de contrôle, indique Nisar Shah, qui craint que sa famille ne doive fuir et abandonner leur village. Sonia Ghazali, Islamabad, RFI.
RFI.
En ce 1er mai, journée internationale du travail, des rassemblements et des défilés un peu partout dans le monde actuellement, pas seulement pour fêter le travail d'ailleurs, les mots d'ordre sont variés. Le président colombien appelle à défendre les réformes, on marche contre le gouvernement au Salvador et en Serbie. 1er mai, sous très haute surveillance à Istanbul, en Turquie, plus de 50 000 policiers sont déployés. En France, plus de 250 rassemblements étaient au programme. Les syndicats ont manifesté en ordre dispersé sous des formes variables. La CFDT avait opté pour un rassemblement en plein air et en plein centre de Paris dans le quartier des Halles. Un débat a été improvisé avec les syndiqués et avec les passants sur des questions comme l'emploi et les conditions de travail. Présente à cette manifestation, Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, elle souhaite remettre le travail au centre du débat public.
On a voulu vraiment mettre l'accent sur ce qui occupe et préoccupe les travailleurs et les travailleuses au quotidien, qu'on parle de leur travail, qu'ils soient reconnus, qu'on reconnaisse qu'il y a besoin de dignité au travail. Et il y a aujourd'hui beaucoup de questions qui restent sans réponse. On a applaudi les soignants, on leur a dit qu'ils allaient être reconnus, on a essayé de sortir de la lumière les travailleurs invisibles, ce qu'on appelait aussi les travailleuses essentielles. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions qui sont sans réponse. Et on ne peut pas juste dire aux travailleurs et aux travailleuses attendez la prochaine fois, parce que là, on a plutôt un problème de budget ou les employeurs qui nous disent que la crise économique actuelle ou les inquiétudes qu'ils peuvent avoir face aux interrogations ou aux différentes sorties que peut avoir le président des États-Unis. Enfin, je pense que le temps social, c'est maintenant et qu'il y a besoin de considérer différemment le travail. C'est pas juste une variable d'ajustement.
Marie-Lise Léon, secrétaire général de la CFDT, au micro d'Anne Verdaguer en ce 1er mai où l'on fête aussi le Muguet. En Syrie, les dernières violences à caractère religieux ont fait au moins 73 morts selon l'OSDH, c'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG. La France a demandé aux différents protagonistes, dont Israël, de mettre fin à ces violences. Quant à la plus haute autorité spirituelle des Druzes de Syrie, il dénonce une campagne génocidaire contre sa communauté et il s'en prend au pouvoir d'Ahmed el-Sharaa, le nouvel homme fort à Damas. Économie maintenant, avec une étude de l'ONG Oxfam sur la rémunération des grands patrons. Près de 2000 entreprises dans 35 pays ont été scrutées à la loupe. Depuis 2019, cette rémunération des grands patrons a augmenté en moyenne de 50%, pendant que celle des salariés a quasiment stagné. Léa Guérin est chargée de plaidoyer chez Oxfam France.
Année après année, on assiste au même spectacle. La rémunération des PDG explose, alors que le salaire des employés stagne. Concrètement, en 2019, le salaire médian des PDG de notre échantillon était de 2,9 millions de dollars, qui est déjà conséquent, et puis il est de 4,3 millions en 2024. Plus on engrange et plus on laisse faire ce système qui laisse la richesse s'accumuler dans les mains de quelques-uns, plus on va créer des inégalités. Pour pallier à ce système, on propose tout simplement d'appliquer des règles en garantissant par exemple un salaire décent, mais on appelle également à avoir un écart maximum de rémunération de 1 à 20 entre le salaire du PDG et celui du salaire médian dans leur entreprise. En France, en 2022, par exemple, les PDG du CAC 40 avaient gagné en moyenne 130 fois plus que leurs salariés. Et c'était un chiffre qui était déjà en progression depuis 2019.
Léa Guérin, interrogée par Agnieszka Kumor. En tennis, le tournoi sur terre battu de Madrid, avec parmi les derniers résultats, la défaite en quart de finale de Daniil Medvedev, l'ex numéro 1 mondial, sorti en 2-7 par le Norvégien Casper Ruud, le score 6-3-7-5. Petit truc en plus, ce film a été l'un des grands succès de l'année 2024 au cinéma. Film français, à petit budget, il avait cartonné avec plus de 11 millions de spectateurs. C'est une comédie de l'humoriste et réalisateur Artus, tournée avec des personnes en situation de handicap. L'histoire ne s'arrête pas là. En effet, Artus prolonge son film au moyen d'une fondation. Il compte ouvrir des sites de vacances pour personnes handicapées. Isabelle Chenu.
L'appel aux dons de la Fondation Artus est lancé. Objectif, bâtir ou réhabiliter des maisons de vacances inclusives ouvertes aux personnes handicapées mentales atteintes de trisomie ou d'autisme. Des lieux de qualité afin d'arrêter de faire rimer le médicalisé avec le glauque, explique Artus. C'était le rêve de l'acteur et réalisateur qui porte cette cause depuis longtemps et qui, avec son film Un petit truc en plus, a raflé la mise en salle. Son histoire d'un duo de braqueurs en cavale qui décide de se faire passer pour un pensionnaire et son éducateur dans une colonie de vacances pour personnes en situation de handicap a su toucher de façon drôle et tendre le public. Ce succès et cette mise en lumière lui a permis de monter son projet. La fondation a reçu une première mise de fonds de 300 000 euros, abondée à part égale par Artus, les producteurs et les distributeurs du film. Le site internet de la fondation Un petit truc en plus est hébergé sous l'égide de la fondation Personnage, créée par un autre acteur populaire, Lino Ventura, en 1966, qui avait lui-même une fille atteinte de handicap.
Isabelle Chenu, sachez aussi que Artus sera l'an prochain le premier humoriste à remplir la grande salle de la Défense Arena à Paris deux soirs de suite. Parmi les dernières nouvelles, enfin, le départ du conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Mike Waltz, il quitte son poste. On en reparle dans le prochain journal 18h, le journal en français facile. Mais tout de suite, sur le Pont des Arts, l'émission de Nathalie Amard.